tous. La Grande Table passe en format estival jusqu'à fin août. Autre lieu et autre possible, nous allons multiplier les rencontres. 13h50, voyage, la Seine et nos amours. François Sureau remonte le fleuve de sa source jusqu'à l'embouchure et vous raconte l'histoire des lieux. Et tout de suite, la comédienne Laetitia Doche donne la parole au philosophe Emmanuel Coccia qui la passera à Vincent Baudrier, directeur du théâtre Vidi à Lausanne. Qu'est-ce qui les lie des arbres et des planches? C'est l'été, bienvenue à tous sur France Culture.
France Culture, la grande table d'été, Olivia Gesbert.
Et bonjour Laetitia Doche.
Bonjour.
Après la bataille de Solferino de Justine Triet, jeune femme de Léonore Serrail, vous avez retrouvé ou vous retrouverez bientôt les salles avec Passion simple de Daniel Arby, d'un film labellisé Cannes 2020. Au théâtre, vous avez pris la mesure de Shakespeare avec Éric Ruff, collaboré avec Yves-Noël Genot et Katie Mitchell pour Duras. Vous êtes comédienne mais aussi metteur en scène, Hate. Votre tentative de duo avec un cheval a pas mal fait parler d'elle. Fin mai, vous avez présenté à Lausanne votre pièce « Les arbres vous parlent » par Zoom, spectacle du confinement. Enfant du temps court et du temps long, né à la fois d'une envie urgente de faire et d'une longue réflexion autour du vivant et de ses métamorphoses. Une réflexion que vous avez nourrie, alimentée par des rencontres, des discussions avec des philosophes, avec des botanistes, avec des citoyens, avec des hommes et des femmes venus de partout. On écoute un extrait du spectacle pour commencer.
Chers spectateurs et spectatrices du théâtre, vous nous manquez. Nous voyons cette salle vide et nous vous imaginons chez vous, seul, isolé, avec un manque de quelque chose. C'est pourquoi mes amis de la forêt et moi, tous les copains de la forêt, nous avons décidé de vous faire un spectacle pour combler ce vide. Nous savons que vous vous imaginez que nous avons des choses à vous apprendre, à vous faire ressentir. Qu'à travers notre grand âge, nous avons appris notre manière aussi de vivre ensemble, sans se sentir en concurrence, nous semble être quelque chose que vous aimeriez connaître. Nous voudrions, à travers ce spectacle, vous faire prendre conscience de ce que nous pouvons nous apporter, de ce que vous aurez peut-être envie de changer, de vous donner du courage et de la joie. Nous voulons vous donner de la douceur dans cette période particulière. Être un baume, être un arbre sous lequel on se met pour s'abriter, peut-être. Pour s'isoler un petit peu au calme.
Ce besoin voulons-vous sentir de dire, de raconter, il est né d'où pour vous, Laetitia Doche?
Alors, si vous parlez du fait de raconter des histoires, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, j'aime ça, mais cette histoire particulière, je crois que c'est né pendant le confinement. Je travaille depuis longtemps sur le monde végétal parce que je sens qu'il y a comme chez moi un mur entre les végétaux et les hommes, et moi, que je n'ai pas avec les animaux. Je ne vois pas encore, et je voudrais voir les végétaux comme des cohabitants, plutôt que comme un décor, ce que j'ai parfois la sensation qu'ils sont. Et en fait, le végétal, c'est un règne. Nous, nous ne sommes qu'une espèce. Nous sommes une espèce dans le règne animal, et le règne végétal, c'est un règne qui était là avant nous. Et qui est en fait très important, qui va nous survivre peut-être. Et donc, je m'étais dit, comment arriver à me connecter à ça? Et puis, le monde s'est arrêté. Et tout d'un coup, on a commencé, je trouve, chacun à regarder les végétaux, comme on était immobile, qu'on bougeait moins, d'une manière différente, à les considérer. Et ça a été un moment où moi, j'ai commencé à faire des entretiens par Zoom avec des gens que j'aimais, mais en arbre. C'est-à-dire qu'on filmait chacun un arbre, et on faisait parler les arbres ensemble, et moi, je notais, j'en faisais des textes, en fait. Et je trouvais que ça parlait de plein de choses. Et qu'en plus, ça nous permettait d'adopter un autre point de vue et peut-être de nous ouvrir à cette sensation que ce n'est pas un décor. C'est un peu idiot de dire ça, mais c'est vraiment physique que c'est, on partage la planète avec eux. On fait partie de leur écosystème comme ils font partie du nôtre. Donc ça a commencé comme ça, et un jour je me suis dit, ah bah, ce qui serait vraiment génial, c'est que ces arbres, en fait, qui profitent de cette solitude, de cette immobilité de nous, ils en profitent pour nous faire un spectacle. Parce qu'ils ont des choses à nous apprendre, ils ont des choses à nous dire. Et donc c'est devenu les arbres vous parlent, donc c'était par Zoom, donc puisque les gens étaient bloqués chez eux, ils pouvaient plus aller au théâtre, ils avaient envie d'aller au théâtre. Et ça va continuer d'ailleurs, parce qu'on va continuer à en faire par Zoom là à la rentrée. Et ces arbres, tout d'un coup, comme ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas aller dans les salles, et ben ils font un spectacle par Zoom pour les humains. Voilà d'où est venue un peu l'idée. Maintenant on la décale, on fait aussi ça, puis on travaille aussi sur une radio, radio arbre, une espèce de libre antenne pour les arbres, pour qu'ils puissent vider leur sac sur ce qu'ils pensent des humains.
Ce qu'ils font déjà d'ailleurs dans la pièce, dans le spectacle.
Oui.
Les arbres vous parlent. Ils sont pas toujours contents de la manière dont on les traite. Ils ont aussi entre eux pas mal de choses à se dire, de comptes aussi à régler parfois, d'un arbre à l'autre.
Ouais.
Vous êtes reparti aussi d'une vue, d'une fenêtre présente dans le théâtre de Vidi à Lausanne, une ouverture vers la forêt, ce sentiment que la forêt entre dans le théâtre ou le théâtre s'inscrit au milieu de ce décor. Néanmoins, pensez tout cela à travers cette forme du zoom, donc de cette application qui permet de se parler par vidéo, de raconter. C'est quand même une forme inédite qui modèle différemment le récit. Ça vous pousse ou ça vous contraint à raconter cette histoire autrement?
De toute façon, vous savez, en ce moment, les contraintes et ce qui nous pousse, c'est la même chose, vu qu'on est tout le temps déstabilisé ces quelques mois qui sont venus. Après, cette salle de théâtre, elle est quand même dingue, parce qu'elle est en hauteur, on est à la hauteur des arbres, on a l'impression qu'on les regarde autant qu'ils nous regardent. Il y a vraiment un truc de face à face, de duel. Et le fait d'utiliser Zoom comme seul moyen de communication, ça mettait une espèce de froideur, de distance. Qu'il n'y a pas la sensibilité qu'on a quand on est devant une salle de théâtre. Et en même temps, on est chez soi, on est un peu seul, dans le sens où on est un peu recueilli aussi. Et ce truc-là me plaisait parce que c'est comme ce mur qu'il y a à franchir entre les espèces. C'est que pour moi, c'était une image de ça. Je pense à ces apéros Zoom où on boit et on est quand même un peu triste. Et ben, il y a ce truc-là et qu'il faut arriver à le traverser. Et ces arbres, ils ont envie de le traverser.
À l'origine, il y avait l'idée, je crois, aussi d'une veillée. Acteurs, spectateurs, chacun venait avec un sac de couchage et discutait autour de son rapport à la nature, autour de sa sensibilité, de l'écologie aussi. C'est un thème qui est très important aujourd'hui, qui nous préoccupe. Peut-être que le confinement a encore accentué cette envie de nature. On l'a vu là, en tout cas, avec les résultats de l'élection municipale. Cette vague verte qui a aussi emporté la France électorale durant cette élection, et puis la convention citoyenne qui avait été mise en place. Aujourd'hui, Emmanuel Macron écoutait les propositions des citoyens qui y participaient et leur donnait des réponses. Ça, c'est important aussi que votre théâtre, quand vous êtes metteur en scène, Laetitia Doche, prenne en compte ces préoccupations-là, qui sont contemporaines, qui sont des préoccupations de notre temps, du moment. Que votre théâtre entende l'époque, qu'il lui donne quelque part la réplique.
De toute façon, il s'en nourrit, c'est vrai que ça c'est très important. Je crois que le thème de mon travail, c'est aussi ce qu'on a senti dernièrement, dont on a besoin, c'est l'envie d'égalité, de plus d'égalité, donc de plus de respect de l'autre. Et effectivement, ça passe par, j'imagine, plus de respect entre espèces ou entre règnes. C'est de se remettre à une position où on est moins dominant et on a affaire avec les autres comme des égaux. Pour moi, ce qui a été aussi important pendant le confinement, c'est quelque chose qu'on a senti, ça. Par exemple, que tous les métiers sont importants. Donc, le besoin d'égalité entre les salaires, par exemple, c'est important. Pour moi, ça fait directement écho aux arbres qui vont tout faire pour s'entraider, pour être un peu tous au même niveau, parce que c'est leur intérêt. C'est leur intérêt qu'il n'y ait pas de grand dominant. Donc, effectivement, je cherche, si vous voulez, en tant qu'humaine, citoyenne, peut-être, je cherche le sens, qu'est-ce que je peux apporter à maintenant et qu'est-ce qui me manque. Et donc, c'est dans la façon dont les végétaux fonctionnent que je trouve des des tentatives de réponse. Si j'ai encore le temps, je vous raconte une anecdote.
Allez-y.
En fait, ce qui est très beau, c'est que par exemple, une plante, elle se forme que par accident. Par exemple, à un moment, sa branche va se casser, et ben elle va en faire pousser deux. Et après, ça va devenir un arbre qui va avoir deux troncs. Et en fait, sa forme finale n'est faite que d'accidents. Et même la couleur de ses fruits, la taille de ses fruits, la hauteur de ses fruits, ça va être faite que des nécessités de survie. Et ça va faire sa spécificité. Et ça, moi, je trouve ça très beau, que c'est par les accidents qu'on trouve sa spécificité.
Les arbres vous parlent par Zoom. Cette pièce, ce spectacle a été présenté fin mai à Lausanne. Spectacle enfant, né du confinement.
Ouais.
Pensé par vous, Laetitia Doche, avec d'autres, puisque vous avez aussi discuté de ce qui se joue aujourd'hui pour pouvoir penser et faire dialoguer vos arbres sur cette scène et par Zoom. Vous avez, on l'imagine aussi, lu, peut-être écouté, les mots de l'ancien forestier allemand Peter Wohlleben, auteur d'un best-seller, La vie secrète des arbres. Il a montré, lui, le réseau fascinant qui se tisse entre les arbres, leur intelligence, et il parle aussi de leur langage.
Also ich würde das schon als auch als Sprache bezeichnen.
Moi, j'appelle cela effectivement un langage.
Wenn wir das auf ähnliche wissenschaftliche Prozesse runterbrechen, dann stoßen
wir auf
eine Schallwellen.
Quand on essaie de descendre au niveau scientifique, c'est vrai qu'on peut comparer avec les hormones qui sont émises ou des phéromones et qui déclenchent certains comportements de la part de ceux qui reçoivent ces hormones ou ces phéromones. C'est comme une cascade. Moi, je trouve un petit peu difficile simplement de dire que c'est seulement justement de cause à effet au niveau des plantes ou des arbres. Nous savons, par exemple, que les arbres mères sont capables, grâce à leurs racines, de reconnaître si les rejetons qui se trouvent autour d'elles sont leurs enfants, entre guillemets. Et donc, il y a une certaine substance pleine, une sève pleine de sucre qui est reconnaissable. Et si jamais ce sont les rejetons de cet arbre mère, alors elle va les nourrir, cette mère, avec cette solution particulièrement sucré pour les soutenir. Ça, c'est ce qu'on sait. Cela dit, on ne peut pas observer les plantes de l'intérieur, mais nous, on peut le faire. Enfin, on peut s'analyser soi-même et on peut se regarder soi-même de l'intérieur et on a tendance ensuite à extrapoler.
Peter Wohlleben, l'auteur de La vie secrète des arbres, un dispositif pensé pour mettre en réseau les arbres, ça c'est ce qu'évoque Peter Wohlleben, et vous, pour mettre en réseau les hommes à travers cette pièce qui se joue par Zoom, vous le disiez, c'est aussi une manière de lutter contre les solitudes, notamment celles créées par le confinement. Mais alors après, comment fait-on? Quand on s'est dit, j'ai envie de faire parler les arbres, un arbre qui parle, ça ressemble à quoi? Comment on met en scène ce dialogue?
Alors, vous savez, je pense qu'on n'est pas à l'abri de changer de forme. Pour l'instant, ce sont des arbres qui s'expriment avec notre propre grammaire. Ils n'ont pas une grammaire différente. Parfois, ils sont un petit peu plus poétiques. Ce qui change, ça va être simplement leur point de vue. En fait, c'est que comme quand on est actrice, on joue un rôle, ça va être sa voix, sa propre voix, tout ça, mais le point de vue est différent. Et là, on a les points de vue de gens déjà qui sont beaucoup plus vieux que nous, pour la plupart, qui sont complètement immobiles et qui sont liés par le sol tous ensemble. Forever, quoi. Pour toujours. Mais ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, comme on a vu, moi j'adore cette histoire, que quand même les mères avec leurs fils chez les arbres, elles les nourrissent pour les garder plus longtemps petits, quoi. Enfin, ça crée aussi des tensions. Donc, il y a des choses qui sont proches de nous et d'autres qui sont très différentes. Le lien au vent, le lien au soleil. C'est drôle parce que je parlais avec Emmanuelle Cochia, qu'on va entendre après, et je lui disais, mais quel effet, à ton avis, ça fait de transformer l'énergie en chlorophylle? Je lui dis, c'est un peu comme quand on bronze? Il me fait, non, c'est comme quand, si tu te faisais brûler complètement et en même temps, tu reçois du lait, tu têtes du lait. Donc, c'est des sensations en fait différentes, mais le même vocabulaire.
Et puis, c'est un autre savoir, c'est une autre forme d'intelligence. Qu'est-ce qu'ils ont pour vous, surtout d'urgent à nous dire, les arbres, Laetitia Doche?
C'est.
S'ils avaient un message à nous faire passer.
Ouais, j'entends. Je pense la solidarité. Je pense ça. Dès qu'il y en a un qui est un peu malade, tout le monde l'aide. Parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à survivre dans la longueur. Ça, c'est contre tout ce qu'on nous apprend depuis que, même si on se bat contre, on baigne quand même dans autre chose.
Ça, c'est ce que vous dites en ouverture de la pièce.
Hein. Ouais, désolé,
ensemble, hein, sans se sentir en concurrence.
C'est pas facile.
Essayer nous-mêmes de nous débarrasser un peu de nos préjugés.
Ils sont
en
concurrence, ouais. Mais ils surmontent ça. Quoi.
Et ça nécessite quoi comme qualité, comme valeur?
Je pense que c'est la conscience de la mort, à vrai dire, si je peux me permettre. C'est-à-dire, c'est la conscience qu'un grand danger peut arriver et que du coup, s'il y a un trou dans la forêt, c'est chiant. Donc, qu'il faut que la forêt tienne fort pour des grands dangers extérieurs qui peuvent arriver. Mais c'est drôle, ça fait vraiment écho au Covid pour moi. C'est un truc qu'on a senti. Les gens qui applaudissaient tous les jours à 20h, pour moi, c'est aussi ça qu'ils disaient. C'était que quand il y a un grand danger, on a conscience qu'on doit former une équipe. Et je pense qu'ils ont tout le temps cette conscience-là. Enfin, j'imagine, même s'ils n'ont pas vraiment de conscience, une conscience différente de nous, mais ce truc-là me parle, en tout cas.
Et pourtant, la mort, la vie, ce cycle, c'est justement le philosophe Emmanuel Ecoccia qui nous le fait repenser. Oui. La vie comme une vaste métamorphose. Il va nous rejoindre dans quelques instants pour l'heure.
Par Zoom.
Par Zoom. France Culture, il est 13h02, c'est la grande table d'été avec notre première invitée, Laetitia Doche, comédienne et metteur en scène. À l'occasion de cette pièce, les arbres vous parlent par Zoom. S'élance vers le ciel. Nous sommes chez l'onirique et écologiste Hayao Miyazaki, le cinéaste japonais, dont une partie de la filmographie est présentée actuellement par Netflix, le géant du streaming, qui a acquis une vingtaine de ses films, des films du studio Ghibli, dont Mon voisin Totoro, dont vous venez d'entendre un extrait musical avec cette compo de Joe Hisaishi, quand le grand arbre de la forêt se met à pousser et nous emmène avec lui vers le ciel. Il vous a accompagné, lui, dans la conception de « Les arbres vous parlent ». Votre pièce, Laetitia Doche, le philosophe botaniste Emmanuel Ecoccia, maître de conférence à l'EHESS, auteur de « La vie sensible », puis de « La vie des plantes », conseiller scientifique de l'exposition « Nous, les arbres » à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, qui s'est tenue l'an passé, fantastique exposition. Il vient de publier « Métamorphose » aux éditions Payot et Rivage. Bonjour Emmanuel Ecoccia.
Bonjour Emmanuel Ecoccia.
Bonjour.
Bonjour Laetitia. Bonjour Vincent. Bonjour.
Voilà pour les présentations officielles. En tout cas, moi je viens de les faire. Laetitia Doche, est-ce que vous pouvez vous œuvrer pour une présentation un peu plus personnelle du bonhomme Emmanuel Ecoccia?
Emmanuelle, on s'est rencontrés très vite. On voulait très vite faire quelque chose ensemble. Et finalement, je suis tombée malade et tout ça. Donc, ça n'a pas été possible. Pas gravement, hein, vous inquiétez pas. Et finalement... Et c'est drôle parce qu'on lit des liens de façon rigolote. Il est venu, on se connaissait pas beaucoup, il est venu à ma fête des cadeaux de Noël pourris que je fais après Noël. Et on s'est liés, et puis après on a directement commencé à se parler en arbre en fait. Donc on s'est très peu parlé sauf en arbre. Et on était, lui il était en vigne vierge en face de chez lui, puis moi dans mon marronnier d'Inde en pot. On a commencé en fait une relation finalement en arbre.
C'est vous le lierre hein, dans la pièce, Emmanuelle Cochère. Hein,
tout à fait. Dans la pièce et parfois dans la vraie vie.
C'est vrai. Vous êtes comme ça, vous couvrez les peaux.
Oui.
Ouais. Vous venez de très loin. Oui. Et vous vous accrochez aux autres.
Exactement. Ouais.
Et pourquoi vous...
C'est surtout ça là.
Et pourquoi vous vous êtes accroché à Laetitia Doche?
Parce que c'est un esprit extrêmement libre qui est capable de pratiquer. Les médiums les plus disparates et qui est capable de te rencontrer, te demander tout de suite de se ré-rencontrer un arbre, ce qui est rare en fait. Donc du coup c'est ça qui m'a frappé immédiatement personnellement, au-delà de la qualité de la fascination que j'ai
moi aussi qu'elle écrive un magnifique.
ces pièces en fait. Parce que la première fois que je l'ai vue, c'était en scène pendant qu'elle jouait Eight.
Et j'étais toute nue avec un cheval.
Sur lequel après, j'ai fait un cours à Sciences Po en fait. Donc,
sur le dialogue compliqué entre la femme et l'animal. Qu'est-ce que vous avez fait comme cours autour de cette pièce Eight qui a été mise en scène, pensée aussi par Laetitia Doche?
Toujours avec Yuval Rosman dans
parce
un
que
coin.
Je vais...
Allô, pardon, je vous ai coupé, monsieur.
J'ai fait un cours sur l'histoire de l'écologie, l'histoire critique de l'écologie, et la pièce de Laetitia était un exemple, après avoir parlé de Donara, oui, du fait que notre histoire se relie et s'écrit avec ou par les biais des autres espèces. La pièce de Laetitia, c'était un exemple parfait de comment raconter cette histoire. C'est cette histoire qui est une coévolution, qui est une histoire qui s'écrit à plusieurs voix avec d'autres espèces, etc. Et c'était une histoire différente parce que les rapports entre les chevals et l'humanité, les chevals et cette femme, n'étaient pas reliés à l'agriculture, à l'élevage, mais c'était plutôt presque une histoire d'amour, une histoire d'un copinage, etc. Donc c'était pour ça que c'était important c'était un peu je l'ai présenté comme un manifeste pour ce que la littérature doit apporter à l'écologie ou à notre monde, des théâtres aussi, la capacité de raconter à nouveau nos rapports avec les autres espèces.
Dans la pièce, vous dites que les arbres sont des magiciens de cette planète, hein, des alchimistes qui captent la lumière et que notre vie en est l'expression, lumière céleste, extraterrestre. Vous continuez à plaider, Emmanuelle Cochia, pour une nouvelle cosmogonie. Qu'est-ce qu'on aurait à y gagner?
On aurait y gagné énormément. Tout d'abord, par exemple, la conscience que la vie qui nous anime, la vie qui est à l'intérieur de chacun de nos corps, nous les humains, est exactement la même vie qui anime la totalité des autres êtres vivants. On a la tendance à oublier, à penser que notre chair, que notre souffle est quelque chose de tout particulier, de différent, alors que à cause tout bêtement du lien des naissances qui relie tous et toutes les êtres humains, les femmes et les hommes entre elles et entre eux, et du lien charnel qui relie toutes les espèces entre elles, en fait, effectivement, chacun de nous vit la même vie, mais exactement la même vie qui a apparu dès que la vie a fait son apparence sur cette planète. En fait, on n'est pas juste alliés, on est exactement la même chair de tous les autres vivants. Et au fond, à chaque fois que nous mangeons, nous, nous, nous contemplons cette identité des vies et de chair, et nous produisons cette identité de chair. Au fond, manger signifie à la fois contempler, qui est la vie qui anime les poulets que je viens de manger, ou la tomate est la même qui m'anime, et c'est aussi l'acte de production de cette identité, parce que au fond, les poulets, la tomate, la capre, etc., va se réincarner dans mon corps, et moi, quand je serai mangé, j'aurai une deuxième vie dans une autre dans la vie d'une autre espèce ou d'un autre règne, en fait. Donc, ce qu'il faut gagner, et ce qui est la base, la seule base possible d'une nouvelle écologie, c'est la conscience du fait que tous les êtres vivants vivent de la même vie.
Et vous arrivez aussi avec cette idée dans Métamorphose, votre dernier ouvrage, cette idée que le cycle de la vie n'est pas un cercle fermé, hein, que c'est un cycle infini, que la vie sans cesse se transforme. La naissance est un couloir, écrivez-vous, un canal de transformation qui mène la vie d'une forme à l'autre, d'une espèce à l'autre, d'un règne à l'autre. Qu'est-ce que c'est exactement la métamorphose pour vous, Emmanuel Ecochea? Comment vous la définissez? On la connaît à travers Ovid, un peu. Quelle est votre définition à vous de la métamorphose?
Mais tout d'abord, on la connaît aussi, je pense, chaque enfant a dû s'émerveiller face à la transformation qui a lieu dans un cocon entre la chenille et les papillons. Et déjà là, on a plein d'enseignements à tirer. Fond, chenille et papillon sont deux formes qui n'ont rien en commun, ni anatomiquement, ni éthologiquement, ni écologiquement. Ce sont deux morphologies incompatibles. Ce sont deux formes de vie, deux ethos totalement différents, parce que la chenille, c'est un être qui passe sa vie à manger, comme s'il était dans un énorme McDo qui dévore tout ce qu'il rencontre. Et les papillons est un satyre qui n'épense que à s'accomplir, à faire du sexe. En fait, donc, et pourtant, les deux sont la même vie. Et ils habitent aussi dans deux mondes différents. Donc, la chenille habite un monde terrestre et les papillons habitent un monde aérien. Et ce qu'il faut tout d'abord tirer de cette évidence, de la métamorphose, c'est que, en fait, là où on voit de la discontinuité, même de l'incompatibilité sur les plans morphologiques, sur les plans éthiques, morales et sur les plans écologiques, de monde, de territoire, en fait, il y a les mêmes moi. En fait, donc, ce qui nous renseigne la métamorphose, c'est que la vie n'est jamais une forme d'identité, n'est jamais, ni d'un point de vue formel, ni d'un point de vue moral, ni d'un point de vue de cosmologie. C'est ce qui se passe entre les formes, ce qui se passe entre les états, c'est ce qui a lieu entre les mondes, ce qui relie tous les mondes qu'elle est capable d'habiter. Et d'une certaine manière, ce que les livres essaient de démontrer, et ce que j'ai pu tirer même de l'observation au fond infantine de ce phénomène, c'est que ce même rapport où une discontinuité cache une forme de continuité plus profonde et réelle, qui est la continuité de la vie, n'est pas juste les rapports qui relient les deux formes si disparates et si différentes entre de la vie du même individu, c'est-à-dire la chenille et les papillons, mais les mêmes rapports qui relient tous les individus de la même espèce et toutes les espèces entre elles. Il y a une très très longue partie dans les livres, de m'épancher sur la naissance, qui est peut-être la première forme de métamorphose qu'on est obligé à vivre et qui témoigne de cette même continuité dans la différence. Au fond, on s'y penche à peine parce qu'on vit dans un monde qui a été façonné par les mâles pour les mâles, mais la naissance donc est une espèce de trou noir ou de tabou. Mais dans la naissance, le fait que pour venir au monde, soit obligé à être accouché par quelqu'un d'autre, signifie que chacun de nous, pour vivre, est obligé, d'une certaine manière, à voler la chair, les souffles, la vie d'une vie qui l'a précédée. Nous sommes tous et toutes, au fond, une deuxième vie, la deuxième fois d'une vie qui a déjà vécu. Parce que moi, j'étais, au fond, je suis la même chair de ma mère, et pendant 9 mois, je l'étais au sens physique du terme. Même chair de ma mère a su mélanger sa chair avec la chair de mon père, et Et ensuite, elle a fait comme un voyage dans le temps. Ce qui est intéressant dans la naissance, c'est que la naissance, elle est témoignage de cette capacité magique de rajeunir, en fait, de prendre son propre corps et de les rajeunir jusqu'au jour zéro. Et ensuite, de l'éjecter, d'obliger ton propre corps à vivre une deuxième fois. Et donc, différemment, effectivement, parce qu'on peut pas répéter tous les gestes qu'on a accompli, mais et donc du coup littéralement moi je suis la même vie de ma mère obligée à vivre différemment et j'ai dû prendre ce corps et les porter ailleurs.
Et dans vos métamorphoses, Emmanuel Ecoccia, vous montrez aussi que l'identité n'est jamais définie ni jamais figée. On a tous une part d'animal, une part de végétal et même une part de minéral en nous. On a peut-être aussi quelques virus, des bactéries, tout ça font les humains. Chacune des espèces est un patchwork de morceaux prélevés sur d'autres espèces, écrivez-vous. Sur cette question de l'interdépendance des espèces qu'évoquait Laetitia Doche aussi en ouverture de cette émission, je vous propose d'écouter les mots de l'ingénieur agronome Gauthier Chapelle. C'est l'un des complices de Pablo Servigne. Il a beaucoup travaillé, lui, notamment sur le biomimétisme. On l'écoute.
Je vous propose cette phrase d'une botaniste qui nous explique « Chaque nuit, dans les villes, des millions de gens s'endorment dans la paix. C'est une chose merveilleuse de penser à tous ces sommeils, à cette confiance. Nous oublions les êtres nécessaires pour ces respirations. Ce ne sont pas tant les plantes qui vivent en ville que les villes qui vivent dans un monde de plantes. » Et enfin, le conseil: la prochaine fois que vous avez besoin d'inspiration, mais aussi de beauté ou de calme, passez la porte, allez à la rencontre de vos cousins, ceux qui volent, ceux qui grouillent, ceux qui nous nourrissent, ceux qui produisent notre oxygène. Ils nous attendent pour nous amener vers une renaissance de notre relation à la Terre.
Voilà, Gauthier Chapelle en 2014, Laetitia Doche.
Ce que je trouve magnifique là dans les deux voix qu'on a eues, Emmanuel et Gauthier, c'est que c'est aussi des langages qu'on découvre. Il y a une poésie du vocabulaire qui nous fait, je trouve, penser différemment dans le choix des mots et d'appeler les cousins. Enfin, la réflexion, elle se passe aussi par le style et par l'art, du coup. C'est, pour moi, j'étais très émue des deux façons de mettre du vocabulaire ensemble que je viens d'entendre.
Et un renversement des représentations. Il le dit dans cet exemple, à travers cette image de la ville au cœur de la nature. Vous, vous avez grandi en ville, Laetitia Doche ?
Oui, j'ai grandi en ville, mais j'ai grandi avec des animaux, beaucoup d'animaux, une dizaine d'animaux dans un appartement. Donc peut-être que ça, on se sent comme si on aurait dû être dans la forêt, et puis finalement on n'y est pas. Peut-être qu'il y a ça chez moi, comme une forêt perdue que je cherche, ça c'est possible. Mmh. C'est une sensation aussi que j'ai eue avec le son là, c'est qu'il y a ces deux personnes qui sont très chères à mon cœur, Emmanuel et Gauthier, et ils sont loin, c'est comme des arbres lointains. On est comme une forêt invisible, où les arbres sont immobiles, loin, mais ils communiquent grâce à la radio là par exemple.
Mais quand vous grandissez en ville avec tous ces animaux, cette ferme dans votre appartement, rien n'est incompatible à ce moment-là. Ça vous paraît faire sens?
Le monde des animaux m'a naturellement paru faire plus sens que le monde des humains, en fait. C'est que je les ai mis en dichotomie, petite.
Et pour beaucoup, il y a pourtant un dialogue impossible. Il y a une forme de quelque chose serait irréconciliable entre la nature et les humains. Emmanuel Ecoccia, comment on peut dépasser ce sentiment-là, se dire que l'on peut faire un?
On peut le dépasser peut-être simplement en se regardant face au miroir. En fait, ce qui m'a toujours frappé, c'est que d'un point de vue génétique, on l'a démontré, notre ADN est un patchwork d'éléments qui viennent de virus et de un peu partout. Mais même si on se regarde au miroir et on réfléchit bien à notre forme, eh bien au fond, on partage les yeux avec des milliers d'autres espèces, on partage les oreilles avec des milliers d'autres espèces, on partage les nez, la bouche, notre poitrine. Il y a plein de morceaux de notre corps qui sont pas exclusivement humains. Donc, d'une certaine manière, c'est comme si nous vivions déjà une vie qui est aussi une vie de poissons, une vie des chiens, une vie d'oiseaux, etc. Et c'est comme si pour se rapporter aux animaux, on n'a même pas besoin de sortir de chez nous, il suffit juste de se regarder ou de se rapporter à soi. Et car nous sommes une espèce de zoo ambulant, nous sommes un étrange mélange d'animaux, de plantes, de virus qui ont été mis tout ensemble et auxquels on a donné les noms d'humains, mais qui est une forme de biodiversité en elle-même en fait. Nous sommes déjà la biodiversité, donc on a c'est acceptant notre humanité, c'est-à-dire le fait d'être vraiment une ménagerie qu'on peut aussi s'apporter à tous les animaux, les virus, les champignons et les plantes qui sont sur Terre. Elles sont déjà à nous, nous les portons à nous, donc on n'a pas besoin de dépasser je ne sais pas quelle limite morale, éthique ou d'espèce en fait. On n'a pas besoin de franchir notre espèce en fait. Ils sont tous et toutes à l'intérieur de nous.
Cette question
pas tous et toutes, mais ils sont à partie déjà.
Cette question de l'impossible ou de l'impossibilité, oui. Emmanuelle Ecoccia, Laetitia Doche, vous propose de l'écouter abordée par une écrivaine, c'est la romancière Annie Ernaux. Elle parle de la difficulté d'écrire en général et notamment aussi pour écrire Passion simple qui est en ce moment ou qui vient d'être adaptée par la cinéaste Danielle Arbide. Le film a été sélectionné à Cannes, malheureusement le festival n'a pas eu lieu.
Dans sa forme, alors peut-être une forme de Covid qu'a inventé.
et ça s'est traduit par des labels. Le film, du coup, Passion simple, dans lequel vous jouez, Laetitia Doche, de Danielle Arbide, a été labellisé Cannes 2020. On écoute pour l'instant Annie Ernaux nous parler de cette conception qu'elle a de l'impossibilité, de comment l'impossibilité peut être aussi moteur de la création.
Il y a des choses qui sont impossibles. Alors, des choses qui se sont faites, que normalement, on devrait avoir envie de faire, bon, de créer des personnages, ou voilà, des dialogues, etc. Et en réalité, le livre se fait avec... parce qu'on peut pas faire certaines choses. Et pour moi, beaucoup de livres, presque tous, sont nés d'impossibilités de cette sorte. Je pense par exemple à Passion simple. Je ne pouvais pas écrire autrement que sous forme de liste, des signes de la passion. Je ne pouvais pas raconter la rencontre, par exemple. Je ne pouvais pas non plus inventer des dialogues. Voilà. Et évidemment, les années appartiennent à cette impossibilité d'écrire une autobiographie, si je puis dire, avec un jeu, J-E, avec un récit. Il fallait que je passe par... autre chose.
Les arbres vous parlent, semble être née cette pièce de l'impossible échange entre les différentes formes de vivant. Hate, votre précédent spectacle, Laetitia Doche, semble aussi être née de cette impossibilité à dire certaines choses. L'impossibilité peut être un moteur de la création, peut aider à essayer de dire les choses autrement, dépasser cet obstacle.
Je pense qu'on crée toujours... ou parce que c'est des endroits qu'on ne peut pas dire ou qu'on peut pas, qu'on est frustré, un endroit qui doit sortir. Donc que ce soit en faisant des listes ou que ce soit en essayant de faire parler des espèces ensemble ou que ce soit là en voulant faire un spectacle effectivement avec des arbres pendant un moment où tout était fermé, même si ça va continuer maintenant que tout est ouvert. Donc oui, je pense que des impossibilités naissent des formes. Et ça, c'est vraiment... les plantes, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Pour moi, c'est ça. Et justement, c'est vrai qu'on n'a pas de festival de Cannes cette année. Mais d'une certaine manière, tant mieux. Parce que est-ce qu'on aurait vu en sortir d'un confinement des gens très très bien habillés, avec des belles robes, en train de faire des grands saluts à tout le monde sur des tapis rouges? Est-ce que ça aurait été vraiment le moment? Mais peut-être qu'on pourrait essayer de penser à un festival de Cannes. Parce que là, ça commence à se profiler. Il y a des événements quand même qui se profilent petit à petit. Qui soit justement qui n'appartiennent que à ce moment ou qui soit peut-être qui donne envie aux gens de retourner au cinéma ou il y a peut-être des jurys qui participent qui viennent de métiers très différents qui soient pas forcément tous du métier du cinéma qu'on mélange plus les métiers et les niveaux enfin qu'on n'enferme pas ça comme un truc dans une prison dorée ou dans un truc doré comme le Cannes était chaque année ce qui est très bien mais cette année je trouve que ça invite à un autre rapport au film de Cannes. Peut-être un rapport avec des projections, avec des, je sais pas, avec des soignants qui viennent parler des films. Parce que les gens, ils vont plus trop au cinéma, là. Il faudrait qu'ils retournent au cinéma, il faudrait qu'ils se sentent concernés aussi, quand les films, on les fait pour eux, que le Festival de Cannes, c'est pour eux aussi, peut-être, je sais pas. Ça donne envie d'inventer, en fait, ce que je veux dire, l'impossibilité. Voilà ce que je veux dire.
Impossibilité, incompréhension, très tôt, très jeune, on a le sentiment que la déconnexion se fait. Les plantes ne sont pas sujets de culture ni d'enseignement, notamment dans les villes, très vite on est séparés. Hein. Il y a d'un côté la nature, d'un côté le monde des hommes. Et au cinéma, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous allez reconnaître ?
Belle. Regardez, des pommes. Oh. Oh. Oh.
Peux-tu laisser ça à toi?
Nous avons fait un très long voyage et j'avais grand faim et... Vous parlez, n'est-ce pas?
Elle avait grand faim.
Elle avait grand faim.
Mais qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un venait prendre un petit morceau de ton corps?
Oh, ciel! Oh, j'ai encore oublié que je n'étais plus au Kansas.
Allons, venez, Dorothée. Ce ne sont pas là des fruits bons à manger.
Assignerais-tu que mes fruits ne sont pas comestibles?
Oh non, c'est-à-dire, je crains qu'il n'y ait des vers dedans.
Insolent! Allez-vous-en!
Attendez, vous aurez des pommes.
Ouba, le truc a réussi. Ramassons-les.
Voilà, c'est Blanche-Neige au Kansas, en fait, hein, Laetitia Doche, extrait du Magicien d'Oz, le moment où le pommier se rebelle, pas content du tout, parce que Dorothy s'est servie de ses pommes, est allée en cueillir sans même lui demander son avis, avec l'épouvantail qui le titille et le pommier qui finit par leur jeter des pommes pour les chasser et les éloigner. Hein.
Bon, les pommes, en fait, pour de vrai, les pommes, elles sont faites pour tomber, pour être mangées, et pour qu'on puisse faire, sans vouloir être vulgaire, qu'on fasse caca quelque part et que ça puisse aider un pommier à pousser.
Mm-hmm. Mais quand même.
Les pommes, c'est vrai qu'il faut peut-être leur demander leur avis, mais quand même, les pommes, ils sont bien contents quand on les enlève, ou alors elles tombent toutes seules. Bon. Réponse sérieuse à question légère.
Voilà, hein, Emmanuel Ecoccia. On peut peut-être élargir, ou je sais pas, approfondir avec vous, non, sur la question quand même de l'éducation aussi, et de notre relation, de celle qu'on peut entretenir avec notre environnement. Vous avez le sentiment, vous aussi, peut-être, qu'on n'apprend pas assez ce rapport à la nature, cette proximité. On en est si tôt déconnecté et il est compliqué par la suite de se dire que nous vivons tous dans le même monde, que les formes de vivant, au fond, ne font qu'une.
Oui, on en est séparés physiquement et cognitivement. On en est séparés physiquement parce que le projet des villes a été, on peut le dire, un projet minéral et criminel. Au fond, il y a eu les élections en France hier, et si on demande ben, c'est quoi Paris, c'est quoi Bordeaux, c'est quoi Lyon, chacun de nous répondrait, ben, c'est la collection des femmes et des hommes qui habitent un certain lieu, un espace minéral, etc. Et déjà, de cette définition, on se rend compte à quel point on a mis de côté, négligé, même oublié, refoulé, ben, tous ceux et celles qui sont nécessaires à la vie des femmes et des hommes à Lyon, à Paris, à Bordeaux, c'est-à-dire les pommiers, les blés, mais aussi les vaches, les cochons, etc. C'est-à-dire, toute ville doit se redéfinir comme une rencontre ou un assemblage qui est multispécifique. Il ne suffit pas de réunir des femmes et des hommes dans un même lieu pour que la ville puisse vivre. Parce que mettre ensemble des humains et des pierres, ça veut dire produire un désert, ça veut pas dire faire une ville, en fait. Donc, dans la définition, il faudrait, intégrer les autres êtres vivants. Et aussi dans la construction, au fond, la présence des autres en ville est toujours une présence clandestine, à part les chats et les chiens, les rats, mais de manière illégitime, et les moustiques. Les animaux en ville sont personnes et non grates, et donc et les plantes sont là juste comme des bibelots vert qui doit un peu casser la monotonie des pierres. Donc il faudrait reconstruire différemment les villes, les rendre, les penser comme des zoos vraiment, mais au sens littéral du terme, comme un ensemble où les animaux peuvent vivre librement à leur manière et peuvent façonner les paysages. Et après, d'un point de vue cognitif aussi, il y a beaucoup de choses à faire, notamment pour les plantes. Moi, je raconte toujours cette anecdote. Je suis père d'un enfant de 5 ans et je me suis aperçu du fait que dans la littérature, dans les livres pour enfants, il y a beaucoup d'animaux qui ont toujours des noms, qui ont une forme spécifique. Donc, ma fille connaît les noms d'animaux exotiques qu'elle probablement elle va jamais rencontrer, mais elle les connaît dans toutes les langues du monde, etc. Mais la plante est présente juste comme idée platonicienne, comme tache marron et verte. Il n'y a pas de variété, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de d'être ou de chêne. Il n'y a que l'arbre en fait. Et ça, au fond, ce n'est pas juste du manque d'éducation, c'est une éducation à l'ignorance en fait. On élève nos enfants pour qu'elles puissent ignorer que ben, les arbres ont des formes très très différentes. Ils ont un nom, ils ont une personnalité, exactement comme les koalas n'est pas la même personnalité, même moralement, qu'un loup, etc. Donc il faut vraiment revoir beaucoup de choses.
Il y a une sensibilité nouvelle qui est en train de poindre. Si on revient à ce qui s'est joué pendant cette crise épidémique, tout a commencé avec une mise en quarantaine très abrupte, un peu plus en France peut-être qu'en Suisse, où au théâtre Vidi de Lausanne, la pièce « Les arbres vous parlent » par Zoom a été présentée à la fin du mois. En quelques heures seulement, en tout cas ici, les liens ont été coupés, les populations confinées sans plus de préparation. Aujourd'hui, on sent ce besoin qu'on évoquait avec Laetitia Doche de recréer du lien, pas simplement entre nous, mais aussi avec la nature. Est-ce qu'il est pour vous assez profond pour que quelque chose se passe, Emmanuel et Coccia, ou assez superficiel ce besoin ?
Non, c'est très très profond. Au fond, on avait, comment dire, les confinements et la quarantaine, cette étrange mise à mort temporaire et peut-être pas temporaire de la ville, peut-être nous a donné la mesure d'à quel point la ville en général nous rend impossible ces contacts avec les autres, l'autre, la nature. Donc du coup, je pense que, et même cette fuite dont on parle, je suis en ce moment à Milan et il y a une très très grande polémique liée au fait que la plupart de Milanais quittent la ville, mais c'est probablement la même chose à Paris. En fait, la plupart de gens décident de quitter les villes pour aller habiter à la campagne. Donc, je pense qu'on fait face à un phénomène important qui va avoir des conséquences réelles. Et c'est pour cela que, par exemple, la pièce de Laetitia a été importante, parce que il suffit pas juste d'aller habiter en ville, il est nécessaire de se rapporter à cet autre qui était exilé, qui était mis à part, comme avec un père, en fait. L'une des beautés de la pièce, je trouve, je suis partisan parce que j'ai joué la pièce, mais d'un point de vue théorique, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était la première fois qu'on comprenait au sérieux le fait que, voilà, on peut se rapporter à un arbre comme on se rapporte à un autre être humain, ou comme on se rapporte depuis très longtemps à un autre chat.
Et dans Métamorphose, dans Métamorphose, Emmanuel Coccia écrit bien avant le confinement, avant la crise sanitaire. Vous avez une réflexion qui est passionnante aussi autour de la maison. Hein. La maison comme archétype de la frontière, écrivez-vous, non seulement parce qu'elle inclut les premiers murs que nous construisons, utilisons, habitons, mais parce que c'est à travers elle que nous partageons l'humanité entre le proche, l'intime, l'inséparable et le reste. C'est grâce à la maison qu'il existe un moi et un toi, et c'est à travers la maison que le moi apprend à ne plus se séparer de certains autres, à s'y amalgamer, à s'y familiariser. Nous n'arrivons pas à quitter la maison, à prendre congé de l'idée qu'il y aura une relation naturelle à l'espace, immédiate et originaire, non artificielle et non accidentelle. Nous n'arriverons jamais à nous libérer de l'idée qu'il y a un lieu où nous ne sommes pas exposés à des dangers, où nous sommes naturellement protégés, où nous sommes naturellement nous-mêmes. Avec ce confinement, c'est un tout autre rapport, hein, du coup, à ce moi qui s'est mis en place.
Oui, en fait, on a bâti ce mythe de la maison, mythe de la maison qui a d'ailleurs en forme aussi l'écologie, parce que il faut jamais l'oublier, écologie vient du mot oikos qui signifie maison, et on considère toujours que les animaux, les plantes ont un rapport à l'espace qui est semblable à celui qu'on a, nous, grâce à nos maisons. Mais on a fait l'expérience, pourtant moi j'ai fait l'expérience pendant ces confinements, que la maison n'est pas simplement un refuge, un lieu de protection, peut être un danger. En fait, on peut mourir d'excès de maison. En fait, on a vécu un peu ce que les pièces d'Ibsen ou Tolstoï nous avaient appris, c'est-à-dire que cette obsession pour la maison n'est pas saine du tout, en fait. Que surtout si la maison est un dispositif d'exclusion et d'exil et pas de partage, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense, au fond, ce qui était bizarre pendant ces 2-3 mois, c'est que les villes étaient mortes, étaient surtout interdites. C'est une expérience inouïe. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la ville, l'espace public a été déclaré presque partout hors loi, interdit. Donc, et on voyait les humains se promener avec plein de peur, en fait, et à toute vitesse dans les rues. C'était un spectacle très, très bizarre. Et on était en ville. Et on était confinés à la maison et on sait, d'une certaine manière, ce qui était touchant, on a tout fait pour, au fond, creuser des couloirs pour sortir au moins virtuellement de la maison. Au fond, l'explosion des réseaux sociaux, des social media, etc., a été ça, la volonté de fuir la maison, de construire des espaces de partage alternatifs.
Voilà, de réunir nos solitudes. Réunir nos solitudes, comme dirait le Seigneur. Dites-moi.
Ouais, mais de ce point de vue, c'est ça la tâche qui nous attend. En fait, ce n'est pas juste de réformer la ville. Il faut vraiment, vraiment réformer les maisons. En fait, on ne s'y rend pas compte, mais
c'est son prochain livre.
Il y a une réflexion, une réflexion incroyable sur la ville. Mais la maison a été un objet. On accepte de vivre dans des parallélipèdes, comment dire, dans des boîtes qui ont été inventées pour une vie bourgeoise qui était déjà vieille dans les années 50, qui était pensée sur la famille hyper bourgeoise, et en fait on n'a jamais voulu imaginer différemment la maison, c'est-à-dire cet espace minimal dans lequel on réunit des choses et des humains et des non-humains pour être heureux. Mais les modèles qu'on a, ce sont des modèles totalement périmés.
Merci Emmanuel Ecoccia.
Et oui, il faut y aller, monsieur. Monsieur, il ne faut pas rester là.
Non, il faut vraiment repenser la maison. En fait.
Et ce sera l'objet d'un prochain livre. C'est ça. En attendant, Métamorphose avec un S, c'est le dernier. Emmanuel Ecoccia vient de paraître dans la bibliothèque de chez Rivage. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Emmanuel, à bientôt.
Oui, et toute cette semaine à midi, vous pouvez aussi avoir raison avec Emmanuel Laurentin et Rachel Carson, pionnières, théoriciennes de l'écologie aux États-Unis. Clin d'œil à cette nouvelle grille d'été qui a commencé ce matin avec les matins d'été dans la voix de Guillaume Erner. On est ensemble jusqu'à 14h, c'est la formule estivale de la Grande Table. Vous avez déjà entendu et souvent entendu Pierre Soulages vous parler du noir, un peu moins vous parler de son amour des arbres, on l'écoute.
Quand il est dans la nature, si cet arbre nous émeut, nous touche, par son apparence violente, par la combinaison extrêmement complexe des tropismes de l'arbre avec les avatars de l'individu qu'il est, l'endroit où il a poussé, et enfin tout cet ensemble de facteurs qui ont fait sa forme. Et c'est ce qui nous touche souvent. Il peut nous toucher aussi différemment, il peut nous toucher aussi par la droiture, la pureté de son essence, comme le peuplier qui pousse d'une certaine manière tout à fait différente du côté noueux et révolté ou violent. Révolté déjà c'est un mot de trop, mais violent des châtaigniers, par exemple, ou des oliviers, je ne sais pas. Si on les regarde ces choses-là, si on les aime ou si on est ému par ces choses-là, on l'est de la même manière qu'on peut l'être par une sculpture abstraite. Alors, quand on me dit que j'ai toujours été un peintre abstrait, je crois que j'ai toujours été sensible aux formes.
Voilà, les sensibilités de Pierre Soulages aux formes. Ce monde, vous, Laetitia Doche, il vous émerveille encore ?
Le monde ? Oui, je fais vite, mais pendant le confinement, ce qui était rigolo, c'est que plein de choses m'émerveillaient énormément et il y avait
en même temps autant de choses qui m'effrayaient ou qui me dégoûtaient. Il y avait ce terme que Edgar Morin, la pensée complexe, que moi j'avais compris intellectuellement mais jamais senti. Et là maintenant je sais ce que c'est la pensée complexe, c'est que je trouve que c'est pour le monde est pour moi de moins en moins binaire et que j'ai de plus en plus de mal à me faire un avis définitif dessus parce qu'il est à la fois sublime et en même temps tragique. Enfin, et en même temps 30 000 trucs en fait.
Il est celui qui a accueilli cette nouvelle pièce spectacle presque expérimentale, Les arbres vous parlent, par Zoom. Vincent Baudrier, actuel directeur du théâtre Vidi-Lausanne, ancien co-directeur du Festival d'Avignon, une édition à Avignon, on l'évoquait, Laetitia Doche, qui ne verra pas le jour cette année.
Non.
Et ça, il sait ce que c'est, Vincent Baudrier. Un théâtre qui ferme aussi pour cause de virus, puis de travaux, ça vous le savez également. Vincent Baudrier, bonjour.
Bonjour.
Le temps a été suspendu, un temps où vous avez appris probablement aussi à en faire usage autrement. Il a bien fallu, pendant ce confinement, ouvrir les portes du théâtre à d'autres expériences. Là, elles ont rouvert les portes de votre théâtre début juin avec un spectacle pour une personne, Boîte Noire. De quoi s'agit-il ?
Non, c'est un spectacle qui est né dans ce moment très très particulier d'un théâtre qui était fermé. Emmanuel Ecoccia parlait de la maison. Le théâtre, c'est vraiment aussi une maison où on se rassemble pour partager de l'art. Et là, la maison était fermée. On a fermé subitement la veille de notre festival Programme Commun. Les décors étaient encore sur la scène. Et c'est aussi un moment où, après cette saison, le théâtre historique va être fermé pendant 2 ans. Pour une grande rénovation. Et donc, on était déjà en train de commencer à ranger, à déménager, à enlever des souvenirs de ce théâtre. Et dans ce moment-là, l'artiste Stéphane Kegui, qui était à Vidi parce qu'il devait créer un spectacle, la création a été annulée, s'est promené un soir avec la directrice des projets artistiques du théâtre, Caroline Barneau, et ils ont ressenti un théâtre. Qu'est-ce que provoquait un théâtre vide ? Habité par tous ces fantômes, par tous ces souvenirs d'un art qui est éphémère, donc il ne laisse que des traces. Et il a eu envie de les faire parler, de réveiller les fantômes du théâtre. Et c'est une balade audio-guidée et spectaculaire dans l'ensemble du théâtre, depuis les ateliers techniques, jusque dans les loges, sous le plateau, jusque sur la scène, où on entend des voix, des souvenirs, et même Laetitia qui participe dans le projet et qui fait l'actrice dans la balade.
Voilà, actrice et spectatrice aussi, Laetitia Doche, vous avez expérimenté ce projet de Stéphane Kegui.
Oui, c'était ce que j'ai vraiment aimé. C'est qu'on peut entrer dans les intestins du théâtre. Vous savez, il va être fermé, il va être rénové complètement. Et là, on peut rentrer dans les intestins du théâtre. Moi, j'adore les ateliers, par exemple. C'est des endroits, en fait, qui sont très beaux. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et voir, on se voit aussi les uns les autres. On regarde la scène, il y a quelqu'un sur scène. Il y a quelqu'un qu'on voit regarder quelqu'un sur scène. Dans les loges, on se croise. Et c'est des endroits où moi, j'ai un peu une petite histoire aussi. J'ai été très émue de ce voyage fantôme avec des voix fantômes qu'on entend en train de travailler, en train de faire des choses et qu'on ne voit pas puisqu'elles ne sont plus là. Un théâtre fantôme, ça m'a beaucoup émue, ouais.
Vidi se métamorphose aussi, Vincent Baudrier.
Oui, alors Vidi, c'est une. Le théâtre de Vidi fait partie de ces théâtres en Europe qui sont chargés d'histoire avec beaucoup de souvenirs. Il est né d'une exposition nationale. En 1964, d'un grand pavillon construit par l'artiste Max Biehl, et puis il devait être démonté après cette exposition, et puis le metteur en scène de Lausanne, Charles Apotello, l'a sauvé. Il en a sauvé un petit coin qui est devenu d'abord une salle de répétition, puis un théâtre, et puis à la fin des années 80, ils ont invité Mathias Langhoff à le diriger, qui lui a donné une colère et une ouverture au monde en même temps. Puis René González, on a fait un théâtre de renommée internationale. Et c'est fort de cette histoire qu'on essaie maintenant de regarder l'avenir. Le bâtiment était un peu exsangue au niveau sécurité, au niveau des normes et même des conditions de travail. Donc on travaille à rénover ce théâtre pour l'équiper d'une salle de répétition et puis lui permettre d'être encore et toujours un lieu de création, un lieu d'invention, d'expérimentation et aussi de production avec des œuvres qui vont après être partagées avec des spectateurs du monde entier.
Voilà, avec une partie du programme qui va se jouer hors les murs dans les deux prochaines années, dans une église, avez-vous dit, à l'université, à l'opéra et peut-être aussi dans la forêt. Vidi qui va fermer ses portes temporairement pour cause de travaux, le Festival d'Avignon annulé. Olivier Py, son actuel directeur, celui qui vous a succédé, a eu besoin quand même de présenter sa programmation, son édition rêvée. On l'écoute.
L'édition 74e s'articule autour de deux dieux qui sont Eros et Thanatos. Alors certains y verront peut-être une prophétie. Ce n'était pas une prophétie puisque nous avons décidé de ce thème avec quelques-uns des artistes du festival il y a plus d'un an pour peut-être aborder les questions politiques d'une manière différente, de manière peut-être un peu moins sociétale et de manière plus directement émotionnelle. Ça veut dire que nous devons nous rappeler que nous sommes humains et nous demander ce que ça veut dire mourir, désirer aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, dans un monde mondialisé. Alors le fait théâtral, ce n'est pas d'être derrière un écran, c'est certain, c'est de se réunir, c'est qu'il y ait une communauté d'esprit qui se réunisse pour ensemble, justement, chercher ce qui, en nous, peut être plus humain encore. Cette réunion, Avignon, on est probablement dans le monde, un des plus beaux exemples.
Voilà Olivier Py à propos de cette édition qui n'aura finalement pas lieu, Vincent Baudrier. Vous imaginez ce que ça a pu représenter à la fois pour lui, pour toutes les compagnies qui étaient engagées à la fois dans le in et dans le off, cette annulation?
Bien sûr, c'est un moment terrible pour tous les artistes qui devaient jouer parce que c'est un endroit exceptionnel de rencontre. Avec l'histoire du théâtre, avec le public, il y a aussi la dimension professionnelle qui fait que c'est un moment de visibilité. C'est cette visibilité qui permet aux œuvres de vivre, d'être vues par d'autres théâtres, de pouvoir tourner. Donc c'est des moments très très particuliers. Et maintenant, comme quand on a nous fermé notre théâtre, il faut transformer ce moment aussi comme une chance pour se réinventer et pour s'engager vraiment avec les artistes qui vont beaucoup souffrir de cette crise, non seulement pendant ces mois d'annulation, mais aussi dans les saisons à venir, parce que beaucoup justement de cette visibilité s'est perdue pendant tout le printemps et ces festivals d'été. Et donc là, toutes les institutions théâtrales ont une vraie responsabilité dans leur engagement auprès des équipes artistiques, des équipes techniques qui font la création pour les mois et les années à venir.
Mais il va falloir quand même garder ce qui fait peut-être, je ne sais pas d'après vous, le cœur du fait théâtral, comme le disait à l'instant Olivier Py. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs pour vous, Laetitia Doche? C'est cette communion, ce moment de commun qui se crée quand une pièce se joue?
Il y a ça, c'est vrai, mais en fait tout d'un coup j'ai écouté ce qu'il disait, il parlait que la réunion n'est pas possible autre part que dans une salle en fait, c'est ce qu'il disait là, enfin, la réunion du théâtre. Mais moi je suis aussi touchée par d'autres réunions, par exemple là on a une émission radio, on est réunis avec Vincent qui est à Lausanne, et on parle peut-être je sais pas combien, 100 000, 1 million, je sais pas combien il y a de gens qui écoutent, et on est réunis. Donc, la réunion du présent qu'il y a en salle, c'est vrai qu'elle est très précieuse parce que c'est une respiration commune avec la personne qui est sur scène, qui pourrait tout d'un coup s'arrêter, qui pourrait tout d'un coup descendre de scène, aller dans le public, ou peut-être quelqu'un du public pourrait tout d'un coup monter. Il y a la fiction et la réalité, elles pourraient se mêler. Donc ça, peut-être, c'est précieux. Mais il y a plein de réunions, de façons de se réunir possibles, autres que celle-là.
Merci beaucoup à vous, Laetitia Doche. Les arbres vous parlent par Zoom. Le spectacle aura des prolongements, ce spectacle du confinement, et notamment, oui. On vous retrouvera au Festival d'été à Paris.
C'est ça, on fait Radio Arbre, et puis après, on retourne à Vidi, 9, 10, 11 septembre, je crois.
Aux côtés de Vincent Baudrier. Voilà. Merci beaucoup Vincent. À vous, Vincent Baudrier, d'avoir été avec nous. Et merci à Emmanuele Coccia, qui a aussi participé longuement à cette émission à l'occasion de la parution de son essai Métamorphose chez Rivage. France Culture, il est 13h50. Et c'est la dernière partie de cette grande table d'été, tout l'été, l'auteur de L'Or du Temps. Il s'appelle François Sureau, il est avocat, essayiste, voyage au fil de l'eau. Il suit le chemin de la Seine. Vous pouvez écouter tous les matins, dans les matins d'été de Guillaume Erner, la première diffusion de cette longue chronique reportage. Aujourd'hui, épisode 1, rendez-vous au kilomètre 0 à Source Seine.
Eh bien, nous y sommes. Nous voilà au kilomètre zéro de notre remontée de la Seine, de la source jusqu'au Havre. Eh bien, j'aime mieux vous dire qu'il faut avoir beaucoup d'imagination. Et c'est une imagination que je vous souhaite parce que cela ne ressemble absolument à rien. On se dit que la Seine aurait mérité mieux une chute d'eau, un torrent de montagne, quelque chose. Quand même, c'est le fleuve des Vikings, c'est le fleuve d'Arsène Lupin, c'est le fleuve des impressionnistes, c'est le fleuve des incendies, des faillites, des révolutions. L'origine de la Seine, la source de la Seine, ne paraît pas à la hauteur et l'on ressent ici la même déception que celle du narrateur de La Recherche du Temps Perdu devant les sources de la Vivonne. Nous sommes, Vincent et moi, dans une sorte de réduction en plâtre des buts de Chaumont qui se prolonge en petit marécage municipal sur lequel on voit le premier pont de la Seine qui enjambe ce qui est à peine un cours d'eau. C'est une grotte, un peu comme une sorte de grotte de Lourdes, but de Chaumont, ou peut-être un peu moins d'ailleurs, presque une grotte du parc Monceau. Et dans la grotte, il y a la source, et la source est ornée d'une statue de la déesse Sequana. Sur la partie gauche de la grotte, on peut voir une plaque en marbre qui dit que Napoléon, empereur des Français, il s'agit de Napoléon III, sur la proposition de monsieur le baron Haussmann, sénateur, préfet de la Seine, grand croix de la Légion d'honneur, a érigé ce monument, le monument qu'on voit devant nous là, à la déesse Sequana, aux sources du fleuve. Pourquoi ? Parce que ce fleuve, dit la plaque, a donné son nom au département de la Seine et auquel Paris doit son antique prospérité. Ici commence donc en réalité notre long voyage sur le cours de la Seine. Et ce voyage est un prétexte parce qu'au fond, au risque de choquer, on va dire que je pense que la Seine ressemble à sa source. La Seine, ça n'est pas le Rhin, ça n'est pas le Danube, c'est d'abord un élément pour le rêve. Elle a inspiré quelques poèmes, elle a inspiré quelques tableaux, mais au fond, ces artistes, les peintres, les musiciens, les écrivains ou les cinéastes lui ont le plus souvent tourné le dos, si bien qu'elle a fini par représenter pour moi ce hasard qui nous a fait naître français, un hasard que nous finissons par aimer pour lui-même, dans l'impossibilité heureuse de définir vraiment ce qu'est la France. J'ai remonté la Seine en compagnie d'un étranger, d'un peintre russe exilé en France vers 1920, qui s'appelait Agram Bagramko, peintre affilié au mouvement surréaliste, et je vous en parlerai souvent au cours de ce voyage. Parce que toute patrie est un exil, et d'abord celle que l'on a reçue en partage, j'ai aimé Agram Bagramko comme un frère. Deux ans avant de réaliser son célèbre triptyque des sources de la Seine, qui est conservé au musée d'art moderne de Vancouver, Bagramko a publié au 100 Paris un petit livre, qui commence exactement ici, un petit livre de souvenirs qui s'appelle « Ma source, la Seine ». Et c'est ce livre que nous allons suivre en remontant le fleuve. J'espère n'être pas trop infidèle à sa mémoire. Et comme disait Anatole France au début de « La rôtisserie de la reine Pédo », qu'un livre que Bagramko aimait, parce qu'il le trouvait à la fois loufoque et profond, on lit ceci « Je ne suis pas très instruit dans la cabale, mon maître ayant péri au début de mon initiation ». Il y a malgré tout dans ces régions comme une sorte d'énergie, une espèce de chaleur originelle qui saisisse le voyageur en dépit des toits en tuiles et de l'élégance et du raffinement bourguignon. Ou plutôt on a l'impression que les toits en tuiles et le raffinement bourguignon sont comme un vêtement posé sur un corps agile et robuste, comme un corps barbare. C'est une impression qu'on éprouve souvent en Bourgogne. Ni les druides, ni Saint-Bernard ne sont jamais loin. Et on pense que si les moines ont établi tant d'abbayes dans ces vallons, en particulier l'abbaye des Sources de la Seine, qui est située juste un peu en amont, c'est qu'il y avait là-dedans, dans cette vie presque sauvage, bien des violences à racheter, bien de la passion à revendre, et qu'il fallait non pas éteindre ces passions, mais les convertir, c'est-à-dire les tourner vers d'autres buts et les civiliser. Alors les civiliser, jusqu'à édifier en effet un parc de genre 1850 à proximité des Sources de la Seine, c'était peut-être un peu trop, mais cette contradiction, après tout, entre la grandeur et la futilité, fait aussi partie de notre génie national. Je reviens donc à la Seine, à l'endroit où nous sommes. Il y a une chose assez saisissante quand même, c'est que, en France, l'administration commande à la réalité. Ce qui fait que ce parc se trouve, contrairement à toutes les apparences, à l'intérieur de Paris, par la grâce d'un acte de cession de 1804. C'est ainsi que quand on arrive, après avoir traversé une sorte de gigantesque forêt
gauloise, avec des apics et des perspectives absolument magnifiques, sans d'ailleurs voir grand monde. Il y a un côté nouveau monde dans la vallée de la Seine, près de Châtillon-sur-Seine. Ces forêts immenses, ces plaines immenses, à peine une grosse ferme éparse de temps à autre. Quand on a traversé ce paysage, véritablement des temps primitifs qui évoquent les grands maîtres de la littérature médiévale, le Girard de Châtillon, quand on a traversé ce paysage, eh bien on arrive sur le bord du vallon de la Seine et on voit écrit « Ville de Paris ». Source de la Seine, contrairement à toutes les apparences, puisque nous ne sommes évidemment pas à Paris. Ce qui fait que cette Seine est ordonnée à la capitale qui lui a rendu célèbre, alors même qu'elle lui tourne souvent le dos. Et au fond, c'est vrai qu'il y a un côté dans la Seine qui rappelle toujours Paris, que l'on soit à Rouen ou que l'on soit ici. Les vanités d'Haussmann, dont il est fait mention sur cette plaque, les plaisirs de la fête impériale et la fumée bleue des cigares dont a parlé Rimbaud. Après la gloire bourgeoise du nymphée, avec la déesse Sequana dont j'ai parlé, les débuts sont très très modestes. L'eau coule en bas du muret, c'est un mince filet qui transforme les deux premiers plateaux en petits marécages, et puis après, on quitte le domaine de la poésie haussmannienne pour entrer dans le domaine de l'agriculture, avec plus bas des rideaux de peupliers qui ouvrent tout d'un coup sur des champs déserts qui font naître le souvenir assez sinistre d'un célèbre roman de Zola qui s'appelait La Terre. Dans son livre Ma source, la Seine, Bagram Coe tourne le dos à cet univers de la dureté de vivre et de la condition paysanne. Non pas qu'il fût insensible au spectacle de la misère, mais il ne pensait pas, c'est l'une de ses leçons de son livre, qu'il y ait quoi que ce soit à apprendre, au moins de la dureté que la misère fait naître. Et c'est la première leçon qu'il m'ait donnée sans le savoir. L'ayant reçue et l'ayant médité devant les sources de la Seine, je peux à présent vous souhaitez de nous accompagner au cours des jours et des semaines qui vont suivre. Avant de vous rendre l'antenne, en empruntant pour un instant la voix d'un autre grand russe qui a enchanté notre jeunesse.
Nous sommes ici aux sources de la Seine. À vous France Culture. Et je n'ose dire, à vous Cognac G. À vous les studios.
Au cours de cette émission, nous avons eu deux interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser.
François sur l'eau, François sur eau, Voyage, la Seine et nos amours est à réécouter sur franceculture.fr et multidiffusé donc durant tout l'été, dans les matins d'été, entre 7h et 7h30, puis à 13h50 tous les jours dans la grande table d'été. Grande table signée Alexandra Candilanguet à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Merci beaucoup à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour leur programmation et à Laura Dutèche-Pérez pour la préparation. Très bel après-midi à tous sur France Culture.